Le brigand bien-aimé par Georges Bachellerie. Depuis que la Corse a été allégée de son dernier bandit d'honneur, nous serions incapables de faire un rapprochement héroïque entre les agissements d'un aventurier du haut vol et les motifs qui l'ont poussé à agir. Le progrès tue plus sûrement la poésie que l'absence de poète, et il est évident que la légende, cette gazette des faits, se fabrique moins avec les spécimens rabougris, les Heimatlos, les faisans de la finance, les traîtres soudoyés, les agents provocateurs, qu'avec des gens comme Mandrin ou Jesse James, perpétuellement exposés dans une lutte qui mettait leur tête en danger, pas moins, et nécessitait une endurance peu commune. Enfin, la petite histoire a conservé de ces gens-là des souvenirs de magnanimité et de cran, dont celle des Serge de Lens et autres compères ne retentira probablement jamais. Lorsque les personnages d'une époque sont devenus lassants par uniformité, on a recours à leurs aïeux. La littérature et les spectacles nous ont donné pendant 10 ans la compagnie des gangsters opérant par intimidation, pot de vin, avec la mitraillette en guise de pouvoir exécutif. Tout comme Don Juan, pratiquant dans sa spécialité la panacée au vieil adage, l'ennui naquit un jour de l'uniformité, nous songeons à renouveler les compagnons de nos veillées. De même que pour un bal masqué, la jeune fille revêtira la crinoline de l'aïeul, de même qu'avant la Grande Guerre, les enfants demandaient à leur grand-mère blottie dans leur jupe d'alpaga qu'elle leur parlasse de 70 et de la belle impératrice, nous donnons nos regards et notre curiosité sur ceux du bon vieux temps qui n'avaient pas froid aux moelles. Nous nous surprenons à admirer dans leur forme idéalisée d'outre-tombe les hors-la-loi des siècles passés, tandis que sans hésitation nous rongeons au rang des vilains leurs descendants modernes. Le pourquoi des choses prend une signification plus impérative à mesure qu'elles vieillissent. Les tenants et les aboutissants d'une carrière contemporaine ne sont pas des indications que nous désirons percer. Il leur faut le recul du temps, le rêve des choses mortes, l'évocation d'un autre climat. Quel intérêt voudrez-vous qu'ait Al Capone avec son nœud papillon des beaux jours, sa face modelée par la chirurgie esthétique, son auto blindé, ses repères au 30e ou 40e étage d'un gratte-ciel, toute l'odeur du nouveau monde mécanisé qu'il déplace, à côté de Jesse James, chevauchant pendant des lustres, roi de la voltige, rançonnant les diligences, arrêtant les trains, attaquant les banques sans perdre le sourire à l'adresse des jeunes filles, tapi dans la solitude de la prairie, sans cesse poursuivi par les shérifs, par les détectives les plus fameux, au goûtant une traite fiévreuse derrière les barrières des propriétés amies. Je m'en voudrais que l'on puisse prétendre seul instant un désir amoral de ma part, voulant renseigner le lecteur de la langue française sur la carrière étonnante de Jesse James, connu aux États-Unis comme Robin Hood l'est en Angleterre et Mandrin en France. Je n'étais encouragé que par son pittoresque. Un garçon de 12 ans qui en lirait le récit à cet âge où l'on joue aux gendarmes et aux voleurs comprendrait vite que dans une société comme la nôtre, la vocation ou le passe-temps du célèbre bandit américain ne pourrait plus trouver sa place, son épanouissement, ni sa couleur d'épopée. Jesse James naquit le 5 septembre 1847 dans la maison de ses parents, sise à quelques kilomètres d'un petit village nommé à cette époque Centerville, devenu depuis Kearney, où le montrent encore les locaux considérablement agrandis et modifiés. Il vint au monde 4 ans après son frère Franklin, dit Frank, pour plus de commodité. Il est amusant de noter que c'est le second et non l'aîné qui passa à la postérité. Les relations écrites au moment de leur activité, car ils collaborèrent étroitement, précisent que Frank était le réfléchi, le stratège de leur bande, alors que Jesse, d'un tempérament bouillant, allait de l'avant sans trop réfléchir. Mais Frank est mort dans son lit tandis que Jesse a été descendu par un affreux petit couard de sa compagnie. Cette circonstance a ému l'opinion publique comme le prouve une vieille complainte toujours chantée au Missouri. Enfin, il est indéniable que Jesse James, aux consonances incisives, nom que l'on peut prononcer en chassant par 2 fois l'air d'entre les dents, présente des références pour voguer sur le radeau de l'immortalité et pour devenir le héros d'un film. Les parents James étaient originaires du Kentucky. Par ses ancêtres pionniers de l'acheminement vers l'Ouest, le père, Robert James, avait hérité d'idées aventureuses comparées aux siennes propres qu'il envoya comme élève en théologie dans une académie de Georgetown. Il fit la connaissance de Zerelda Cole, élevée dans la religion catholique, et l'épousa. Il avait 23 ans et elle 17. Cette jeune fille qui savait déjà ce qu'elle voulait et qui au cours de toute sa vie de femme ne se départit jamais de ses affections, apporta son cœur et son intelligence à l'installation de son mari. À l'époque, point n'était besoin à un pasteur d'avoir reçu de vastes enseignements pour prendre la responsabilité d'un premier ministère. Il devait compter sur ses capacités psychologiques, son coefficient de dévouement et son feu sacré. Un an après leur mariage, les Robert James allèrent visiter leur mère et belle-mère remariées dans le Missouri. La contrée leur plut. Possédant quelques fortunes, ils firent l'acquisition d'une terre fertile, bâtirent une maison, créèrent un foyer. Le révérend Robert James, pasteur à la Baptiste, se doubla d'un gentilhomme farmer et fit mentir le trop fameux qui trop embrasse mal étreint, dont l'origine n'est sûrement pas américaine. Il s'acquitta fort bien des deux tâches. Les plantations prospérèrent et les baptêmes se multiplièrent. Le fils de Jesse James, établi avocat à Kansas City en vertu de cette prodigieuse loi d'équilibre qui donne à Napoléon Ier, M. Bonaparte comme père et le malheureux roi de Rome comme descendant, au bandit l'ascendance d'un pasteur et un héritier dans la magistrature, raconte que souvent, Zerelda James vint au bord de la rivière où son mari baptisait sans souffler ni se sécher pendant des heures entières. Elle tenait bébé Jesse dans les bras, et plus tard, lorsque celui-ci revint blessé et marqué à jamais par la guerre civile, il se fit rebaptiser non loin de l'endroit où opérait son père. Après 10 années de culture entre les cérémonies du dimanche, Robert James fut repris souvent par la bougeotte ancestrale et regarda la Californie comme la seule terre promise à la fortune. En quelques jours, il se décida, laissa la ferme aux mains de Zerelda et des domestiques noirs, prit le baluchon de tapisserie brodé à son chiffre et la route de l'Ouest. 4 mois de voyage et sa caravane atteignait la région de l'or. Au bout de 3 semaines, il tombait malade et mourait. De nombreuses années plus tard, ses fils essayèrent en vain de retrouver sa tombe au cimetière de Maryville. Pour avoir caressé l'espoir de donner à ses enfants la solide éducation d'un collège et un capital leur permettant de débuter dans la vie sans avoir à se livrer au même défrichement que lui, il leur apportait l'inverse de son désir et ouvrait la porte à la tragédie. La jeune veuve se remaria et divorça peu après, car l'homme ne faisait pas bon ménage avec les enfants. Elle passa une 3e fois devant l'officier de l'état civil, au bras du docteur Samuel, qui s'efforça de bien élever les garçons. Si Robert James fut pasteur d'âme et cultivateur, Samuel soigna les enveloppes charnelles tout en exploitant le domaine. À 15 ans, Jesse James était un jouvenceau musclé avec un visage souriant de gosse. Du reste, il conserva toute sa vie une prodigieuse disposition pour sourire. Optimisme constant ou rictus, nul ne saurait plus le dire. Il avait le teint frais malgré l'existence en plein air, les yeux bleus. Gêné dans l'âge tendre par une poussée de compère Loriot, il avait conservé l'habitude de scier, ce qui ne diminuait pas l'acuité de son regard. Un ami du Texas, où le tir est considéré comme un jeu national, apprit aux deux frères le coup de feu. Jesse s'y révéla bientôt un maître. La légende raconte que plus tard, en plein exercice de ses illégales représailles, il commandait aux victimes de se mettre face à lui sur un rang, et visant la première en plein front, étendait la colonne raide morte. Avec un peu de réflexion sur les tailles respectives des candidats ainsi promis au pruneau et sur les déviations apportées à sa trajectoire, on peut conclure sans hésitation à l'insanité de tels propos, souvent renforcés de grossières chromolithographies. Les exploitations agricoles d'alors ne comptaient que sur la main-d'œuvre. Point de tracteurs, de semeuses, de faucheuses, de batteuses. Aussi, malgré la collaboration des nègres, les héritiers devaient-ils autant travailler que des valets de ferme? Jesse aimait de tout cœur son métier et le servait bien. D'aucuns ont essayé d'insinuer qu'il se montrait méchant avec les bêtes, qu'au lieu de panser les chevaux, il leur donnait des coups d'étrille, qu'assainir les porcs, il prenait un plaisir malsain. Mais la lumière s'est faite sur ces racontars. Jesse était incapable d'attacher une casserole à la queue du chat, voire de lui mettre aux pattes des coquilles de noix, selon le ridicule passe-temps des garnements. Quand on lui prête ses gestes malfaisants, on le confond avec Charles Cantrill, qui, sous l'étiquette de confédéré vengeur et à la tête de la brigade du drapeau noir, déclencha la guérilla au Missouri et par extension la rapine. On a vu la qualité de la famille James. Chez les Cantrill, au contraire, s'inscrivirent les stigmates de la plus sombre dégénérescence. Mais alors, d'où vinrent à Jesse ses aptitudes pour le brigandage? Entièrement des circonstances et des faits qui coïncideront avec ses premiers réflexes, ses premières révélations d'homme. Les soirs d'été, sur les bancs de pierre encore chauds, qui s'alignaient devant la maison, pendant l'éveil d'hiver autour du feu, les garçons entendaient raconter des histoires de bandits imprenables qui rasiaient les fermes éloignées et se prenaient à détester leur chef. Lorsqu'ils mêlaient à leur jeu l'idée de ses compagnies, celui que le sort désignait comme devant incarner leur vieux renard de capitaine éprouvait personnellement une profonde vexation. Pendant ce temps, les grands discutaient. Cette année, avant le véritable ébranlement de la guerre civile, des échauffourées se produisaient déjà. Dans la Virginie, le Caryland, le Missouri sans loi, des bandes exerçaient leur dictature à des fins soi-disant politiques, mais la plupart du temps de bapillage. Lorsqu'officiellement le Nord prit les armes contre le Sud, Frank James s'enrôla parmi les confédérés. Il entrait dans sa 18e année et pensait défendre avec courage la cause des esclavagistes. Peu de mois après la bataille de Wilson Creek, en permission parmi les siens, il attirait sur son cas l'attention de la police fédérale qui le jetait en prison de même que toute sa famille sauvagement brimée. Quand il en sortit, sa conviction était établie. Il resterait fidèle aux États du Sud, mais appartiendrait à la légion vengeresse des Cantrill, des Bill Anderson, des George Todd, rusés, réguliers dans leur genre, subsistant au hasard des fortunes, farcis d'imagination et doués de mémoire d'éléphant. Le sort était jeté. Jesse ressentit fortement les mauvais traitements infligés à sa famille par la police fédérale. Le docteur Samuel ne dut avoir la vie sauve qu'à la présence d'esprit de sa femme qui le dépendit d'un peuplier à temps, tôt abandonné par les tortionnaires dans leur recherche du cadet. Ils le surprirent au champ en train de labourer et lui administrèrent une fessée si cuisante que Madame Samuel, le voyant rentrer pâle et les lèvres serrées, accusant autant de peine physique que morale et un fond de culotte collé à la peau, se demanda si son rejeton n'avait pas eu peur. Elle comprit tout en découvrant un épiderme zébré de plaies sanglantes. Moins d'une semaine plus tard, alors que les affres de la strangulation s'effaçaient des cauchemars et que les blessures se fermaient, les redresseurs de tort réapparurent et militairement s'emparèrent de Madame Samuel, de sa fille Susie James, âgée de 12 ans, et des trois petits Samuel en bas âge pour les installer sur la paille d'un cachot. Horrifiés, écœuré par ses procédés éhontés, Jesse n'eut plus qu'une idée, se venger. L'injustice venait de lui être révélée à la période de la vie où on est tout d'une pièce, où on dédaigne des demi-mesures, la patience, la philosophie. Avec son ami Jim Cummings, il s'enrôla dans une bande hors-la-loi, celle de George Shepard, qui allait devenir son lieutenant après avoir monté à ses côtés une garde protectrice jusqu'à la fin de la guerre civile et d'une campagne supplémentaire au Texas. La vigilance du vétéran et la sûreté de son tir n'empêchèrent pas James d'être sérieusement blessé à l'épaule quand il revint au Missouri avec l'intention de se rendre. La guerre civile est le plus sordide abcès de la société. Elle déchaîne les passions basses, pousse les êtres d'un même sol à se haïr, modifie le tracé des destinées. À une époque calme, celle de Jesse James eût été différente. Peut-être que l'aventurier esquissé au gré de la bagarre fratricide se serait en temps de paix mué en pasteur comme son père. Aux offices religieux du dimanche, il était, dans sa petite enfance, le plus recueilli parmi les jeunes ouailles. Devenu hors la loi, il resta pieux aussi contradictoire que cela puisse paraître. Il usa peut-être de la religion comme l'héroïne de Naples au baiser de feu, qui se sentant faiblir, porte un cierge à la Madone pour être pardonné d'avance. Un prédicateur anabaptiste rencontrant un jour, traqué mais appris, Jesse, à qui jadis il avait commenté la Bible, lui demanda pourquoi il s'était fourvoyé sur un sentier si rempli d'ivraies. « Jesse, lui dit-il, il est encore temps de revenir en arrière. Indiquez-moi donc le moyen, sans passer par le nœud coulant d'une corde savonnée, lui répondit celui-ci. Mon fils, il ne faut pas oublier la religion dans laquelle vous avez été élevé. Mais qui vous dit que je l'ai oublié, mon révérend ? Et le hors-la-loi de tirer de sa poche une Bible annotée et fatigué comme un livre de chevet vénéré. Ce matin du 14 février 1866, Liberty, petite ville du Missouri, où étaient installés depuis des années les membres les plus distingués de la famille James, s'apprêtait à fêter la Saint-Valentin avec une douceur et une détente particulières. Imaginez une journée comme la Sainte-Catherine, mais au lieu d'être dédiée aux jeunes filles sages en âge d'être mariées, elle encourage le flirt. Oh, en tout bien tout honneur, avec ce respect des nuances sentimentales observé par les anglo-saxons, mais incompatible avec le tempérament latin. Garçons et filles traînaient donc un tantinet sur la route des cours et des emplois. Malgré la neige, les squares étaient plus peuplés que les rues. C'était 8 heures. Les devantures ouvertes depuis longtemps attendaient le client frileux attardé à la table du breakfast si quelque chose d'urgent ne l'appelait au dehors. On reprenait goût à la vie. Elle avait le parfum voluptueux des convalescences. Dans cette région secouée pendant 10 ans par les horreurs de toutes sortes amenées par la guerre de sécession, chacun éprouvait un bien-être complet rien qu'à retrouver le rythme de la paix. Comme la boutique du pharmacien, la banque escomptait la pratique. On était loin des 40 heures. Le personnel composé d'un caissier, d'un comptable, père et fils, avait déjà passé 4 manches de lustrine quand 2 hommes pistolets au poing surgirent devant le comptoir et les sommèrent par leur nom de les conduire au sous-sol dans une espèce de cave fortifiée en coffre-fort. Dans des sacs amenés avec eux, ils raflèrent 75 000 $, sortirent à reculons toujours l'arme menaçante, sautèrent en selle et filèrent avec une 12aine de complices guetteurs, tandis que vers de frousse rétrospective, papa et fiston se mettaient à hurler sous le porche. Un étudiant en mal d'école buissonnière autorisé par Saint-Vincent raconta au journaliste ce qu'il avait vu en profitant de l'institution ancestrale avec beaucoup de dignité et peut-être un demi-intérêt. J'entre dans le jardin public avec Patricia pour y parler en paix de notre promenade en traîneau. C'est d'abord au coin de la grand-rue et de la place que je vois 2 cavaliers ayant mis pied à terre. Je demande à Pat si elle les connaît. Elle me répond négativement. 10 minutes plus tard, il y en a bien 12aine postées autour du groupe de maisons. Ils sont tous en selle. Les 2 premiers entrent calmement dans la banque. Suivant mon regard, Pat me dit. Ces gens-là doivent avoir une somme importante à déposer et sont venus en nombre. Ils devaient craindre d'être détroussés sur la route. À peine a-t-elle fini de parler que les épargnants supposés réapparaissent avec leurs gros sacs noirs, montent en selle, piquent des 2 et s'élancent à fond de train sur la route du Nord suivie de toute la clique. Sans trop savoir pourquoi, un de mes camarades hurle au voleur sur le passage de cette cavalcade endiablée. Des coups de feu claquent. Il tombe. C'est le signal de la bagarre. Une poursuite et une fusillade s'engagent jusque dans la campagne où bientôt les brigands semblent happés par la nature tellement est grande leur connaissance de la région. 14 février 1866. Retenez bien la date. Elle coïncide avec le premier vol de banque à main armée et en plein jour que l'on ait eu en temps de paix à déplorer au pays de l'oncle Sam. Le système n'a pas mis longtemps à faire école et à se perfectionner. Qui étaient les assaillants ? À Liberty, on procéda à une enquête parmi les témoins. Personne ne put mettre une étiquette sur une silhouette, mais la majorité des gens parla des James. Frank et Jesse avaient un oncle qui déposait ses numéraires à la banque. Or, l'un des bandits, qui demanda un peu brusquement au caissier de l'obtempérer à son bon plaisir, l'appela par son nom et n'omit pas le calembour qui s'y prêtait. Documentation étonnante pour un étranger, et sens de l'humour jamais en défaut, dans une situation la plus critique que pendant 20 ans il fallut accorder à Jesse James. Ces maigres indices ne sont pas suffisants pour incriminer la collaboration effective de Jesse. Étant donné la date, il semble que, tapi dans une discrète demeure campagnarde, il devait soigner sa blessure au poumon reçue au Texas peu de mois auparavant. Désireux de se soumettre aux autorités, il aurait demandé à des amis de tâter pour lui le terrain de la jurisprudence. Mais aucun écho de merci ou de psychologie humanitaire n'ayant répondu à sa tentative d'amendement, orgueil et besoin de grand air, le maintinrent brouillé avec la loi. Traité par la littérature ou par le cinéma, cette situation de forme entraquée, de perpétuel vagabondage, apporte à notre époque son vent d'imprévu, permet l'évasion dans des conditions de bien-être dont Jesse James était loin de connaître la douceur. Les nuits à la belle étoile avec des ciels de lit tissés en barbe de maïs, les journées sur le qui-vive dans les failles de rochers, la crainte qu'un hennissement ne vienne révéler mal à propos l'emploi d'une grotte en écurie de chevaux, souvent empruntée sans la permission de leur propriétaire, les repas pris au hasard des rapines ou des amitiés, ne constituent pas un programme de rebelles, spécialistes des opérations financières comme on les comprend aujourd'hui, et passent encore moins pour des intermèdes de vacances. L'ambition de ces messieurs qui tenaient la campagne pour leur sauvegarde, et au début, chichement, était de pourvoir par leur coup de main à l'entretien de l'arsenal, aux indicateurs, aux gîtes pour mauvais temps, aux voyages réparateurs en état voisin, et quand le besoin s'en faisait sentir, à l'entretien de leur famille. L'affaire de Liberty avait trop bien réussi pour ne pas être rééditée. 8 mois plus tard, un bis s'était joué à Lexington et gagné dans les mêmes conditions. À l'intérieur, 2 employés et 2 compères menaçants. « Criard, vous êtes mort. Muet, vous reverrez les vôtres. » À l'extérieur, 5 cavaliers, sitôt les rôles de première activité ressortis avec leurs sacs de butin, en route. Quand ce fut au tour de Savannah, les choses faillirent se gâter. L'opinion publique commençait à s'émouvoir et à prévoir une défense. Quand seul, à l'heure du repas, veillant sur son établissement de crédit, le directeur vit 7 étrangers à cheval stoppés devant sa porte et 2 sautés à terre, il courut chercher son fusil, l'installa derrière le guichet de la caisse et ouvrit le feu sans attendre l'intimidation. Il fut blessé, mais les 7 loustiques tournèrent casaque sans un sou. Alertés, les passants crièrent « C'est encore la bande à Jesse James !» Mais personne n'eût pu mettre un nom sur une tête. En mai 1867, la technique de ces indésirables humoristes changea. Ils entrèrent dans Richmond au nombre de 14 et sur un pied de guerre. Après un siège en règle, ils ne purent dérober que $4,000, mince besogne, mais pour se rattraper, poussèrent le culot jusqu'à libérer de la prison un condamné à la fois politique et de droit civil, interné depuis la guerre de sécession pour avoir combattu dans les guérillas sans vergogne de Cantrill. De nombreuses personnes trouvèrent la mort. Seules les balles des bandits semblaient portées. Ils étaient entraînés au tir. Des volontaires leur donnèrent la chasse, et cette fois furent plus heureux ou plus courageux que les précédents. S'érigeant en exécuteurs, ils pendirent haut et court plusieurs gibiers de potence. Les James restaient introuvables ou avançaient toujours d'indiscutables alibis. Pendant 1 an, le Missouri respira. La défense était organisée. Le quartier devenait malsain. L'attaque d'une banque à Russellville, dans le Kentucky, donna à croire qu'un noyau de pirates s'y était reformé. L'opération, minutieusement combinée pendant des jours, rapporta dans les $10,000. L'exode se régla avec pistolet et fusil. La conclusion amena au pied du mur une nouvelle série de détrousseurs. Parmi ceux-ci, George Shepherd, ancien compagnon de guerre de Jesse James, laissa sous-entendre la présence du jeune homme dans le voisinage. On ne le trouva pas. En fond, il était parti pour le Kansas afin d'y faire soigner son ancienne blessure par un chirurgien réputé. Puis il gagna New York, pour la première fois visita la grande cité, s'embarqua pour Panama, traversa l'Isthme, vogua sur le Pacifique et atteignit la Californie où un oncle, le docteur W. James, plus heureux que jadis Robert James, avait prospéré. Directeur d'une maison de santé, W. James fit en sorte de parachever la guérison de son neveu. À vrai dire, un pneumothorax s'était fait tout seul. Quand Frank vint le retrouver, il était méconnaissable, large d'épaules, mince du bassin comme une statue égyptienne, et gai à longueur de journée. Tous deux se remirent à espérer que de retour chez eux, ils pourraient reprendre une vie normale et que les suspicions entachant leur nom seraient oubliées comme des erreurs de débutants. Rentré au bon vieux Missouri, il s'aperçut vite que par le veto de l'opinion publique, leur apprentissage et leur entraînement, ils étaient irrévocablement liés aux moyens d'existence illicites et violents. La carrière des frères James a jailli des événements. C'est entendu et reconnu, mais nul doute que, n'étant pas homme de demi-mesure, ils la servirent sans lésiner par leur résistance physique, leur imagination, leur habileté, leur sens de l'à-propos dans l'action et la parole. Jesse fut mordu par son activité. L'idée vengeresse qui le poussa dans une armée irrégulière céda la place à un désir de métier rémunérateur. Il est peu probable qu'il opéra dans un but uniquement publicitaire. Il voulut gagner de l'argent, en gagner vite et beaucoup. La même pensée soutint l'esprit de corps dans son gang. Certains membres tués avant Jesse ne purent même pas profiter de leurs bénéfices. En quel cas, le chef adressait leur part aux familles. D'autres se rendirent et, après leur temps d'expiation, revinrent à la vie normale, vécurent de leur rente et furent hautement considérés de leurs voisins. Jesse James ne pouvait plus en 1873 être l'homme d'un maigre pécule touché chaque fin de semaine. Pour être pleinement heureux, il lui fallait échafauder des plans, se risquer et chevaucher. Lorsque marié et réfugié à Nashville dans l'État de Tennessee sous le nom de M. Howard, il aurait pu, sans pâtir de restrictions, couler des jours enviables, bêchant son jardin et mouchant les mioches. Il prit à plusieurs reprises horreur de cette quiétude, redevenant Jesse James sur le terrain de ses plus fameux exploits. Cette année, après l'instauration des vols de banque en plein jour, Jesse dut éprouver quelque ennui à user de représailles contre un objectif unique et chercha une autre source de butin. Il avait entendu rapporter que la ligne du Pacific Railway, construite entre l'Est et l'Ouest via Chicago, transportait de l'or à jour fixe. Frank partit le premier pour l'Omaha dans le Nebraska afin d'obtenir d'utiles précisions. Documenté, il rejoignit Jesse et ses acolytes dans l'Iowa, sur la même latitude mais plus à l'est d'Omaha. On décida d'opérer non loin de la petite cité d'Adair, où la voie décrit une large courbe propice au sabotage. Soir de juillet. La journée a été chaude. Les bandits l'ont passé dans les forêts désertes d'alentour. Chaque cheval est attaché à un arbre. Vers 7 heures, il marche vers le ballast, déboulonne un rail, le laisse dans sa position, y amarre une corde et, couché dans les hautes herbes du talus, en tienne l'autre extrémité. Le train s'annonce de très loin comme la nuit commence à tomber. Jesse n'a pas l'intention de faire une catastrophe. Il pense que le mécanicien verra à temps le rail se détacher de la voie et qu'il renversera la vapeur. C'est exactement ce qui arrive, mais trop tard. La locomotive se couche. Le mécanicien ne donne plus signe de vie et le chauffeur est grièvement blessé. Pour chercher de l'aide, le chef de train court en direction d'Adair. Pas besoin de mettre des pétards. Le prochain convoi ne passe que 24 heures plus tard. Quand il se trouve nez à nez avec un homme dûment armé qui lui intime l'ordre de livrer l'or dont il a la responsabilité. Pendant ce temps, à 100 lieues de penser à une attaque de bandits, n'envisageant même pas que les troupeaux de buffles de Cheyenne aient pu venir jusque-là, les voyageurs vitupèrent à propos du mauvais fonctionnement ferroviaire. Quel n'est pas leur étonnement de recevoir la visite d'une poignée de gaillards qui, avec égard, les allègent de leur argent et de leurs bijoux. Un à un, bracelets, colliers, anneaux, boutons de manchette, portefeuilles sont engloutis par les fameux sacs noirs. Un bonsoir à la compagnie et les visiteurs disparaissent dans les monnaies du pape, les marguerites et les sainfoins des champs. Les délestés n'en croient pas leur mémoire ni leurs poches vides. Ils se sentent des espèces de héros. Avant eux, jamais personne n'a connu pareille mésaventure. L'attaque des trains est inventée. Lorsque Jesse James fit l'inventaire du butin, il ne compta que pour $3,000 d'or. Les renseignements de Frank avaient péché par manque d'exactitude. Le lendemain, sur la voie réparée, passait en destination de Chicago un express avec $75,000 du précieux métal. Comme la prudence dictait la retraite, ces messieurs reprirent leur monture et cheminèrent pendant 5 jours en direction du Missouri, ne s'arrêtant qu'en plein bois pour se reposer et dormir, et dans les fermes esselées, pour y prendre leur repas. Leur hôte d'un soir étant particulièrement loquace, la conversation atteignit les problèmes épineux de la religion et de la politique. Le lendemain de cette débauche de paroles, l'hôte encore tout heureux de l'aubaine alla conter au shérif son ami le souvenir que lui avait laissé d'aussi charmants étrangers. « L'un d'eux était épatant, » insista-t-il. Sur un regard brillant comme de l'acier poli, il baissait et relevait 20 fois ses paupières en moins d'une minute. Il avait des favoris cendrés, une sacrée carrure, et m'a semblé devoir être un professeur ou un bourgeois, mais pas un cultivateur comme nous. Le fermier, si honoré d'une telle visite, ne savait encore rien de l'attaque d'Adair. Probablement que James lui demandait son opinion sur Jesse James, selon sa célèbre habitude. Comme on ne possédait pas à cette époque de portrait de lui, il n'avait pas à redouter l'éclair de mémoire visuelle capable de l'identifier avec son effigie. En réalité, sa mère conservait pieusement dans la doublure de son corsage une unique miniature jadis expédié pendant le séjour californien. La vindicte publique s'anima après l'aventure d'Adair, parce qu'un innocent avait péri dans l'accomplissement de son devoir. En Missouri, on hochait la tête dans les familles campagnardes. C'était plus simple que de chercher les mots correspondant aux circonstances atténuantes formulées par tous les cœurs. « Les petits James sont un peu forts », soupira le docteur Samuel, prématurément voûté et ridé. Mais c'est la loi elle-même qui les a endurcis. Ils avaient une dent contre les trains depuis que la compagnie avait voulu nous exproprier et nous exploiter. Quand le brave homme eut rendu son âme à Dieu, des détectives assurés de trouver Jesse et Frank au bercail entreprirent le siège de la demeure et lancèrent une bombe. Forçant la porte après les sommations d'usage, ils ne trouvèrent que la mère allant avec un bras arraché et le cadavre encore chaud du dernier enfant Samuel. S'attaquant aux diligences, la société James travailla dans le classique. Nulle éducation qui se respecte pourrait s'enorgueillir de dédaigner cette école. On ne peut toujours risquer des innovations. Il faut savoir tirer parti de celles des autres, même anciennes, qui ont fait leurs preuves et en ce cas particulier nourrit leur homme. L'opération fut cette fois dirigée plus au sud que d'habitude en Arkansas. 5 hommes seulement avaient passé la nuit dans un palace de Hot Springs, ville d'eau comparable à Aix-les-Mains pour les bienfaits de ses sources et l'élégance de bon ton qui y était de mise. Ils cheminaient sur la route, à cheval bien entendu, et de fines bêtes, selon leur habitude. Lorsque la diligence parut, cahotant une quinzaine de passagers, qui en prévision d'une cure de bonne humeur s'étaient gentiment pourvus de banknotes, Frank rugit au conducteur l'ordre de s'arrêter. C'était sa spécialité comme d'aligner les voyageurs sur le bord du chemin. Jesse présidait à la fouille, toujours courtois avec les dames, avec un sourire par-ci, un compliment par-là, une paternelle chicane aux deux enfants. Nombreuses furent les voyageuses qui se prirent à soupirer après l'objet de leur ruine. Dans cette diligence, à destination de Hot Springs et de ses délices, se trouvait un monsieur de fière allure avec gibus et moustaches provocantes, qui serrait les poings et ne ménageait pas ses vues sur les procédés dont on usait à son égard. Jesse nota son accent du sud et se mit à l'interviewer. Apprenant qu'il avait servi comme officier dans l'armée des confédérés, il lui fit remettre son bien, soulignant que l'on ne se détroussait pas entre soi. Il termina sur un « bon voyage, mesdames et messieurs, excusez-nous de vous avoir mis en retard et profitez des eaux qui sont bienfaisantes en diable ». En circonstances semblables, à défaut de pouvoir être identiques, nous aurions à courir pour trouver si gentille amabilité de nos jours. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Frank et Jesse James firent de paisibles mariages d'amour. Chacun devint l'époux d'une sage et jolie fille qui marcha courageusement sur la voie conjugale et, semble-t-il, satisfaite, sinon toujours d'une gaieté débordante. Les bâtisseurs d'intrigues ne manquèrent pas de prêter aux frères James des aventures féminines aussi tumultueuses que leur vie sociale. Des publications à deux sous les dépeinrent aux prises avec les plus redoutables vampes de leur époque, déchirant le cœur des jouvencelles par des promesses d'épousailles jamais tenues. Littérature flatteuse aux bas instincts que ces pages reconnues archifausses, mais qui firent de l'argent et du bruit. Quand en bien ou en mal un être élève sa réputation au-dessus de celle de ses concitoyens, il germe autour de lui une fièvre d'insatiable curiosité. Peu importe qu'il soit inventeur, douanier ou musicien. De son vivant, on a l'air de se contenter de son œuvre, mais toutes les oreilles sont bienveillantes aux moindres échos d'intimité. Meurt-il, alors commence la curée spirituelle de l'être de chair qu'il fut. Quand une balle eut envoyé dans l'au-delà l'âme de Jesse James, on put lire sur lui des pages où le donjuanisme s'inscrivait sur le même ton que ses exploits sociaux, c'est-à-dire avec outrance et pittoresque. 50 années ont effacé les flétrissures. La figure intime du hors-la-loi réapparaît pour la postérité claire et pure, telle qu'elle fut vraiment. On ne sut, avant leur mariage, reconnaître aux James une seule aventure. Il devait se méfier des bavardages féminins, de l'imprudence d'Ève et de ses représailles. Le premier, Frank, convola en juste noces avec Miss Annie Ralston, mais Jesse choisit la même année pour enterrer sa vie de garçon. Âgé de 17 ans et joli comme un cœur, Annie était la fille d'un riche fermier du Missouri et de 12 ans, la cadette de son fiancé. Pour prononcer le rituel « I do », sans encourir au minimum une semonce de papa, peut-être pour éviter la séquestration, elle s'enfuit de la maison natale et se jeta dans les bras de Franck sous l'œil et la prière d'un pasteur anabaptiste. L'honorable monsieur Ralston en conçut un vif dépit, non qu'il trouvât son gendre trop barbon pour la fillette, mais parce que leurs deux situations n'offraient à son sens rien de commun. Dès qu'il sut la nouvelle, il partit pour Kansas City afin de prendre l'avis d'un sien ami sur l'attitude la plus décente d'un père outragé. De la consultation, il sortit une lettre ouverte dans un journal de l'endroit, destinée à jeter officiellement l'anathème sur la jeune mariée et à lui faire entendre d'avoir à cesser par le futur toute relation avec sa famille. Les hostilités eurent un agréable côté pendant la lune de miel. Les Ralston laissèrent le couple vivre en paix. Les effusions reprirent à la mort de Jesse lorsque Frank se rendit et commença l'existence bourgeoise que l'on sait. Pendant 8 ans, les Frank James, unis sous le nom de Woodson, changèrent constamment de résidence et habitèrent le Missouri, le Texas, le Kentucky, le Tennessee, le Maryland. Entre ces officieux coups de main, Frank travailla dur comme employé, voire même ouvrier. Entre autres places, on lui connut celle de portier au Grand Théâtre de Saint-Louis. Jamais ses façons rangées ne mirent la puce à l'oreille de quiconque. Son fils unique, Robert, ainsi nommé d'après son grand-père, n'eut qu'à l'âge de 8 ans la révélation de sa véritable identité. N'étaient les fugues aventureuses de Frank soigneusement camouflées par Annie, la peur qu'une balle ou qu'un témoignage désastreux ne vînt détourner le cours de leur vie, ils se trouvaient pleinement heureux, confiants l'un en l'autre. Les années de paix qui devaient suivre furent un paradis sur terre. Les amours de Jesse furent non moins profondes, mais plus courtes et surtout plus mouvementées. Il épousa à 27 ans une cousine du même âge, Zerelda Mims, qu'il avait connue pendant la guerre de Sécession. Blessé, il fut soigné à Harlem, maintenant North Kansas City, par la sœur et le beau-frère de son père. L'aîné de leurs 2 filles était déjà marié à un architecte. La seconde, Zerelda, s'occupa beaucoup de son cousin, paré d'une auréole de combattant et de martyr. Lorsqu'il fut suffisamment rétabli pour regagner le toit maternel, elle l'y accompagna, et pendant des semaines, comme le travail de la ferme était trop pénible pour un convalescent, elle parcourut à ses côtés les collines boisées du pays, cueillant les noisettes, s'abreuvant au ruisseau. C'est alors que Jesse, fidèle aux enseignements de la Bible, respectueux de la femme, ému et réjoui par les enfants, entendit chanter dans son cœur l'hymne voluptueux du Cantique des Cantiques. « Je suis brune parce que le soleil m'a regardé », eut pu répondre Zerelda à la ferveur de sa déclaration. À partir de ce moment-là, les courses firent plus rares. C'est avant de parler que l'on trotte pour meubler les silences, pour retarder l'échéance des mots définitifs, par timidité ou parce que l'on n'est pas encore très sûr de soi. Mais une fois les aveux murmurés, échangés, viennent les haltes plus favorables au projet. Probable que le beau ciel du Missouri, roulant ses nuages blancs, réplique monumentale des touffes de coton cueillies au bord de la rivière, se clouta plus d'une fois de Vénus avant que le duo blotti parmi les épis de maïs ne songeât à rentrer. « Maman, Zé et moi, nous allons nous marier », confia un jour Jesse à Madame Samuel, doublement heureuse à l'idée d'une belle fille agréée et d'un changement de vie pour son fils. Nous savons qu'il n'eut pas lieu. Obligé de reprendre le large, Jesse rencontra encore pendant un certain temps Zé, muté en agent de liaison. Puis, devenue suspecte aux gens de la loi et dangereuse pour la liberté de son promis, elle préféra s'en aller et retourner à la ville. Pendant 9 ans, elle fut la coqueluche des plus beaux partis de Kansas City. Pique-niques, concerts, bals, fêtes de bienfaisance, réunions de jeunesse, dont la charmante Zerelda était la reine, se succédèrent sans apporter de changement à son état. Coiffée Sainte-Catherine dans ces conditions, où était donc le mystère? Aucun des soupirants ne songea que le méchant insensible attendait patiemment ce cousin Jesse dont on se gardait bien de demander des nouvelles. En avril 1874, voyant que l'air de quiétude tant espéré s'éloignait dans un avenir brumeux, les tourtereaux, sûrs de leur tendresse, on le serait à moins, et forts de leur patience, demandèrent à un pasteur, ami des James, de les marier dans une propriété peu éloignée de celle des Samuel. Le bonheur n'ôta pas aux mariés sa prudence. Il arriva au rendez-vous, à cheval, avec un Winchester arrimé à la selle, 2 pistolets en bandoulière sous la veste et un service d'honneur prêt à l'alerte. Unis sous leur véritable identité, contrairement aux Franks, leur premier souci fut d'en changer. bien que sans cesse en déménagement, ils ne s'en tinrent pas au nom de Howard, qui semble avoir été le plus emprunté. Pour plus de sûreté, ils évitèrent de s'appeler par leur patronyme. Ils durent se priver de dire Zé, qu'il adorait. Pour elle, il fut Thomas, David, John. Si leur petite fille conserva Marie, leur fils Jesse Edwards, plus tard fameux avocat, devint Tim pour le père et Dee pour la mère. Il y a une douzaine d'années, de vieilles gens qui connurent le ménage Howard répondirent à l'enquête d'un homme de lettres par des souvenirs touchants. Madame Howard était une excellente cuisinière, une femme d'intérieur parfaite. Monsieur Howard semblait toujours heureux de pouvoir rendre service. Ils invitaient souvent des amis à dîner et se montraient très gais. Si Monsieur Howard ne mâchait pas ses mots au cours des réunions masculines, il châtiait son langage dès qu'une oreille féminine s'annonçait. La veuve et l'orphelin étaient habitués à compter sur lui. Aux courses, on aurait en vain cherché meilleur que lui. À la suite de pareils témoignages, comment prêter la moindre attention aux racontards qui font de Jesse un bourreau des femmes? Et comment croire un mot de ce récit où il est question du hors-la-loi sortant d'une salle de bal pour aller couper 11 tresses pendues autour de sa selle et les rapporter aux donzelles horrifiées par ses trophées capillaires? Au siècle dernier, les élégantes n'en faisaient pas volontairement le sacrifice. L'histoire des tresses peut aller avec celle de la brochette humaine détruite par un seul coup de feu. Quand on réfléchit à quelles extrémités, à quel raffinement le banditisme s'est livré depuis la Grande Guerre, on peut considérer Jesse James comme une sorte de troubadour, de croisé, de cow-boy sans peur, sinon sans reproche, pour qui la bâche à dompter était l'aventure. Il a motivé des décès, mais contre sa volonté, ou en état de légitime défense et ne mérite pas le qualificatif de criminel. Chaque fois qu'il l'a pu, il a évité la mort d'homme. Souvenez-vous de l'attaque du train près d'Adair. Il avait imaginé un subterfuge pour que le malheureux mécanicien fît stopper le convoi à temps. Il montra souvent son artillerie, mais ne s'en servit que sa peau en danger. Il ignora toujours l'aide de la torture pour faire rendre gorge à sa clientèle, et s'il remplit ses écuries de cheveux volés avec discernement, car il s'y connaissait, il reconnut qu'il les remboursa tôt ou tard d'une façon ou d'une autre. Pour ce qui a trait aux espèces trébuchantes, à l'argenterie et aux bijoux, il apparaît que Dingus, ainsi était le surnom de Jesse entre camarades de guérilla, devait éprouver une certaine jouissance à se les approprier par coup d'audace. Il fut un kleptomane en grand. Jamais il ne put résister à l'appel du butin défendu. À mesure que les années passaient, de plus en plus exposé à être pris par la municipalité des détectives lancés à ses trousses, l'appât de sa mise à prix, de moins en moins sûr de ses amitiés, les anciennes étant mortes ou défaillantes, il semble que l'élémentaire prudence aurait dû lui conseiller la retraite. Il avait assez pour vivre et le chômage, alors inexistant, ne le poussait pas aux expédients. Il surveillait minutieusement les petits gestes de la vie quotidienne, par exemple, ne sortait jamais sans gants, car on savait qu'il manquait une phalange méduse gauche de Jesse James, constatation similaire à ne pas faire sur la personne du respectable M. Howard. Il savait l'angoisse qu'il causait à Zé, la lourde réputation qu'il fabriquait à ses gosses tendrement aimés. Alors pourquoi n'avoir pas posé les armes? N'aurait-ce été que pour apporter aux siens une semi-tranquillité? L'obligation d'avoir caché son identité à cause d'un passé plus qu'agité, n'était-ce pas assez? Pourquoi cette perpétuelle soif d'activité? Un médecin répondrait à cela mieux que nous. La bougeotte de Jesse James fut-elle vocation ou cas pathologique? Sujet de thèse aussi neuf qu'inattendu. Pour nous, la seconde définition est la bonne. Plus fort que son péché pour la razzia était l'émotivité magnanime dont il fit preuve à plusieurs reprises. L'histoire de l'ancien confédéré détroussé et repourvu de ses biens sur la route de Hot Springs n'est pas la seule du genre. Frank James rapportait la suivante. À certains moments, nous n'avions pas envie de plastronner dans les agglomérations, aussi prenions-nous nos repas dans les fermes rencontrées au hasard des randonnées. Un jour, Jesse avisa une pauvre femme seule dans sa cour en train d'éplucher des légumes. Il lui demanda de nous fricoter un repas moyennant finance. La femme hésita, accepta et disparut dans la cuisine. Mon frère alla l'y rejoindre et vit qu'elle pleurait. Il lui assura que personne de la bande ne lui ferait de mal. « Mon bon monsieur, lui répondit-elle, je pleure parce que tout ce mouvement et ces pas d'hommes dans la maison me rappellent le temps où mon mari vivait, où la ferme était prospère. Maintenant c'est fini, J'attends, aujourd'hui même, un créancier auquel je dois 1000 $. Je ne puis les payer, et je n'aurai d'autre ressource que de lui laisser la ferme. Par où viendra-t-il, cet oiseau de malheur? Par le chemin que vous avez pris. Les ennuis viennent toujours de la ville. » Quand le repas fut terminé, Jesse remit 1000 $ à la cantinière improvisée pour payer l'addition, dit-il. Elle en resta interloquée et pleura de joie, cette fois. C'est bizarre, mais nombreuses sont les femmes, surtout d'un certain âge, qui ne connaissent d'autre moyen d'expression. Faisant mine de nous en aller, nous attendîmes, en guise de sieste, et cachés dans les buissons, l'arrivée du créancier. Nous assistâmes de même à son départ. Il avait un visage en lame de couteau, l'œil vif et rapace, le nez crochu, un refrain de satisfaction sur ses lèvres minces. Une lieue plus loin, comme il avait déjà savouré son adresse, il était assailli et soulagé des 1000 $. N'était-ce pas justice? En 50 ans, les États-Unis ont davantage évolué que nous en 300. Pendant que nous nous livrions à la cuisante guerre de 1870, un bandit chevaleresque sévissait sur une demi-douzaine d'États américains, tout comme l'aurait fait en France un contemporain de François Villon. À la rapide évolution du gangstérisme, qui perdit vite humour et poésie, répondit celle des G-Men, les services de l'identité judiciaire, le système Bertillon, les informations par radio, etc. Supposition toute gratuite, mais peut-être que 35 ans plus tard, Jesse James aurait été un autre homme. Il n'aurait pas subi l'influence malsaine et déconcertante de la guerre civile et la carence des institutions de Thémis. Si, malgré la différence des conditions de l'existence, ce campagnard s'était révélé plus martial que serviteur de la plantureuse Hébé, la Grande Guerre s'offrait pour drainer sa combativité. Enfin, la pratique des sports et les compétitions mettaient une soupape de sûreté à son besoin d'exploit. Jesse James avait l'étoffe du sportif, bien davantage que Frank s'accommodant d'une vie très sédentaire pendant les mortes saisons. Tandis que l'un se mettait portier, l'autre se fait jockey. Toutes les attaques de train ne furent pas menées comme celles d'Adair. Un bandit qui se respecte doit se renouveler comme un acteur. Bientôt, à travers le Midwest, la prairie chantée par Sinclair Lewis dans Main Street, les brigands corsèrent la difficulté et sautèrent de leurs montures lancées au triple galop sur les marchepieds des wagons et des locomotives avalant 40 km/h. À l'occasion des vols de banque, toujours sous le soleil, contrairement aux vieilles habitudes qui se réclament des nuits sans lune pour conspiration et forfait en tout genre, le public avait remarqué que les assaillants, doués d'une présence d'esprit et d'une précision de tir peu commune, faisaient plus de dégâts parmi les volontaires, défenseurs inexpérimentés de la loi, que même dans les rangs adverses, habiles à la feinte et d'une grande agilité. Aussi prirent-ils l'habitude de viser les chevaux montés ou lorsque leurs cavaliers usaient de persuasion à l'égard des caissiers. Autant de bêtes hors de combat, autant de cavaliers à pied et susceptibles d'être pris. La mésaventure arriva plus d'une fois à Jesse, mais il savait sauter en voltige sur la bête de Frank, choisie solide à cet effet. Et combien de fois, afin d'échapper à leurs poursuivants, ne durent-ils sauter, crispés sur l'encolure de leur monture, du haut d'une falaise de 30 mètres, dans les eaux calmes et limpides d'une rivière? Quand les circonstances y prêtaient, ils agissaient à cheval depuis A jusqu'à Z. Le hall de quelques établissements de crédit, même ouvert sur d'importants perrons, retentit d'étranges carrousels. Les tables d'exposition où venaient s'accouder les élégantes des boutiques prisées furent souvent franchies comme des banquettes irlandaises dans la recherche du plus court chemin d'une rue à une autre, parallèle. Qu'était-ce sinon du sport? Nous ne voudrions pas terminer ce chapitre d'astuces olympiques sans souligner l'humoristique présence d'esprit des James qui, joint à leur cran, les sauva bien souvent. Après une séance en règle et près d'être rejoints par les poursuivants, ils eurent l'idée de semer des pièces d'or. Le résultat ne se fit pas attendre. Ils laissèrent loin derrière eux les pandores bénévoles trop occupés à se disputer la manne. Une autre fois, Jesse se faufila dans un meeting politique et interpella l'orateur avec le calme et la propos d'un type qui a bien écouté et bien ruminé son affaire. À deux pas de là, les camarades se bagarraient dur. Jesse amusa l'auditoire par ses bons mots, recueillit des applaudissements et fit si bien que le candidat, devenu tête de turc, dut déguerpir sous les huées. Jesse profita de la bousculade pour tirer son épingle du jeu. Heureux temps où la méfiance n'était pas le propre de l'homme. Un sale petit poltron tua M. Howard, étendit Jesse James dans la tombe. Tel est le leitmotiv d'une ballade inscrite au folklore du Missouri depuis 1884. Il résume explicitement le geste d'un pleutre qui, d'un coup de feu dans la nuque, tua, en pleine force de l'âge, le plus piquant des hors-la-loi. Nous avons dit qu'au cours de 20 années d'une existence aussi périlleuse qu'étrange, Jesse James eut peu à peu à déplorer la dislocation de son clan. Des membres moururent, certains disparurent. Au hasard des circonstances, il combla les vides par des éléments neufs dont il ne connaissait pas grand-chose. Sa méfiance crut. Alors qu'il habitait Kansas City, il eut un jour la sensation très nette d'avoir été trahi. Il échappa miraculeusement d'un feu nourri inhabituel, pensa à une indiscrétion, mais n'incrimina personne des siens. Pourtant, il comptait parmi eux une brebis galeuse, Charlie Ford, détenteur des secrets comme les autres. Sur ces entrefaites, la famille Howard vint habiter Saint-Joseph dans les environs de Kansas City. La maison était blanche avec des volets verts. On la visite encore de nos jours, mais comme celle de Kearney, elle a beaucoup changé. Il faut faire effort d'imagination pour arriver à se persuader qu'elle fut coquette. On y accédait par une cour gazonnée. Les dépendances comprenaient un grenier et une écurie à deux boxes. Pitée sur la colline dont on découvrait le pays environnant, la demeure s'adossait au maquis. Sage précaution. Charlie Ford aida à la choisir et y occupa souvent la chambre d'amis au cours de l'hiver qui suivit l'installation. « Jesse, finit-il par dire après avoir assez tourné autour du pot, j'ai reçu de tristes nouvelles de mon frère Robert. Il était malade et il sort de l'hôpital sans un sou. Il a 20 ans. Sa détresse fait peine à lire. » Jesse n'attendit pas la fin du discours. « Dis-lui de venir ici, » fut sa réponse. Le 3 avril, soit quelques semaines après l'installation de Bob chez les Howard, le déjeuner du matin venait d'être absorbé en groupe. À la cuisine, Madame Howard lavait la vaisselle. Les enfants étaient partis jouer chez une voisine. Charles et Jesse pansaient les chevaux en vue d'une expédition nocturne. Robert musait dans sa chambre. Pas enragé au travail, ce gars-là. Il est probable qu'à partir de l'instant où Charlie fit la connaissance de Jesse, il pensa aux 5 000 $ de prime promis à celui qui appréhendrait Jesse James et aux autres 5 000 destinés à qui l'amènerait en face du tribunal. Couard, il préférait livrer un cadavre. Dans la chambre où devait se jouer le drame, les frères échangèrent souvent leurs plans meurtriers. Au bout d'un quart d'heure, Jesse et Charlie rentrèrent. La journée s'annonça normalement chaude pour la saison, remarqua Jesse, se débarrassant de sa veste qu'il jeta sur le lit. Mais en bras de chemise, je ne peux plus sortir dans la cour. Je vais ôter ce ceinturon, car si quelqu'un me voyait ainsi attifé, il ne manquerait pas de jaser. La seconde d'après, 2 pistolets dans leur gaine gisaient sur la courte pointe. Le regard de Jesse tomba sur une gravure accrochée au mur représentant un pur sang qu'il avait monté en course avec succès. La glace lui parut sale sous l'éclat du soleil printanier. Il se saisit d'un chiffon et monta sur la chaise, tournant obligatoirement le dos au Ford. En un clin d'œil, ils furent debout, armant leur revolver. Instinctivement, Jesse voulut se retourner, mais son mouvement ne fut qu'amorcé. Robert lui tira une balle à la base du crâne qui ressortit par l'œil gauche. Zerelda entendit la détonation et fit irruption dans la pièce. Son mari, étendu sur le dos, perdait son sang en abondance. Il sembla vouloir lui parler et mourut dans ses bras. Robert s'était précipité vers la porte. La voix de la veuve le cloua sur place, muet. « C'est un accident, » Madame James tenta d'expliquer Charlie. « Oui, un accident volontaire. » Ne trouvant plus rien à répondre, ils tirèrent la porte sur une tragique scène de désespoir et allèrent télégraphier la nouvelle à 2 ou 3 shérifs, à autant de procureurs et au gouverneur du Missouri. Puis ils se livrèrent à la police fédérale, à la fois pour solder leurs dettes envers la société, dettes qu'ils estimaient minces, pour toucher la prime ensuite et se mettre à l'abri des vengeances possibles. Responsables d'un assassinat, ils furent condamnés à être pendus puis graciés par le gouverneur en raison de la situation exceptionnelle de leurs victimes. Bob Ford ne toucha qu'une fraction des 10 000 $, le reste ayant été grassement réparti entre les personnages officiels qui trempèrent dans le guet-apens. Avec Charlie, ils se lancèrent dans le théâtre et jouèrent un mélodrame, Les Hors-la-Loi du Missouri, qui n'eut pas les faveurs du public. Cet échec coupa court à leur activité derrière les quinquets. 3 ans après le crime, Charlie, rencontrant dans la rue Zerelda James et son fils, la supplia de lui pardonner. « Si Dieu a pardonné, je pardonne, » murmura-t-elle, miséricordieuse. Il périt l'année suivante au cours d'un règlement de compte. Quant à Bob, il ne survécut que de 10 ans à sa victime. Ayant émigré dans un centre minier du Colorado avec une ancienne partenaire qu'il fit passer pour sa femme, il ouvrit un bistrot. Son exécuteur se trouva parmi les pratiques. Ce fut le shérif de l'endroit, épris de sa compagne, au point de supprimer radicalement un rival un peu gênant. La mort de Jesse James fut accueillie avec stupéfaction. D'abord, personne ne voulut y croire. M. Howard avait trépassé. Cela était regrettable, mais n'avait rien à voir avec l'imprenable et mystérieux bandit. Le rapport ne fut établi, indéniable, que lorsque les amis et différents membres de la famille James eurent reconnu le corps allongé sur la table froide de la morgue. Le lendemain de la tragédie, ne disait-on pas qu'un vol de banque commis dans le Texas était signé Jesse James? La vindicte publique se fondit en regrets. Livrés à la foule, les Fordus étaient lynchés. Il n'est pas de pays comme la France et l'Amérique pour mépriser aussi délibérément la lâcheté. Le geste du sale petit poltron fut condamné à l'unanimité. Tiré dans la nuque un homme charitable, désarmé, confiant, qui fit certes des choses que la justice réprouve, mais si courageusement. Pouah ! La vile action ! Cette année-là, Bach apporta la réhabilitation populaire du hors-la-loi. Les coupures de presse de l'époque nous permettent de mesurer l'amplitude de l'événement et le ton des oraisons funèbres. Un de nos confrères écrivait « Le médecin légiste constata que James était mort presque sur le coup. La quantité de sang perdu accentue la pâleur de son visage. Sa mâchoire volontaire semble taillée à coups de hache. Jadis blond, ses cheveux sont devenus châtain foncé. Avec ses yeux bleus, il devait être un très bel homme. Il repose, revêtu d'une chemise blanche et d'un complet en casimir brun. Il ressemble davantage à un honnête businessman qu'à un bandit. » Articles, discours aidèrent à introduire Jesse James dans la petite histoire. Nombreux furent ceux qui célébrèrent la beauté de son caractère, qui imputèrent ses erreurs à la guerre civile, à la maladresse des autorités. Pas une ligne, pas un mot ne le condamne sans rémission. Ayant employé sa lyre, le rédacteur de l'Evening Post de New York souligna qu'il mourut de ce que l'on peut appeler une mort royale. Il tomba comme Henri IV, comme l'amiral de Coligny, victime de l'hostilité d'une grande communauté inapte à faire jaillir le meilleur de lui. Il tomba parce que sa disparition lui était nécessaire pour sa sécurité et sa prospérité. Le rédacteur en question devait bien cela à l'homme qui souvent lui avait fourni de la copie inédite et palpitante. Jesse James fut inhumé dans la propriété de Kearney, près de la sépulture de son demi-frère Samuel. Le perpétuel errant avait enfin trouvé la paix sous la terre qu'il aimait. Après 57 ans, le cinéma devait livrer au monde son étonnant destin. Jesse avait frustré l'État du Missouri de $200,000. À l'occasion des prises de vue qui amenèrent un trafic intense, ils furent largement récupérés. Ainsi s'achève « Le brigand bien-aimé » par George Bachelary.